Nous sommes en train de continuer, c'est le dernier message de la série des sept vérités fondamentales. Là, c'est des vérités obligatoires qu'il faut appliquer à notre vie si on veut faire partie de ceux qui vont rentrer dans la vie éternelle. Bien qu'en titre, en position, nous marchons par la foi, nous l'avons déjà. Mais aujourd'hui, on voit la partie la plus triste de l'histoire. C'est qu'il y en a qu'en cours de route, ils l'abandonnent, ils lâchent. On va regarder certains passages de la parole de Dieu parce que Dieu veut qu'on se relève puis qu'on persévère, qu'on lâche pas. La série de messages, c'était, je vais faire un résumé bien vite. La première vérité, c'était qu'il y a un Dieu qui existe puis qui nous aime. La deuxième vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs, qu'on ne peut pas obtenir ce qu'il veut nous donner par nous-mêmes. On ne peut pas le mériter. La troisième vérité, c'est que Dieu s'est arrangé pour qu'on puisse l'avoir quand même en envoyant son Fils mourir sur la croix. Il a payé la dette de nos péchés. C'est des vérités qu'il faut savoir, qu'on peut être pardonné de nos péchés à cause de Jésus. Quatrième vérité, il faut s'approprier ce que Dieu nous offre maintenant, cette opportunité de pouvoir être pardonné en croyant simplement, en se tournant vers Jésus-Christ, en avouant notre impossibilité d'être sauvé, en confessant qu'on veut changer de vie, c'est ça la repentance, on dit « Seigneur, je veux changer de vie, je veux être sauvé, je crois que Jésus est mort sur la croix de pardonner mes péchés », tu y confesses puis tu dis « je l'accepte ». Ce cadeau-là, avec repentance. À partir de ce moment-là, le salut y est rentré dans ta vie. Maintenant, tu es un sauvé. Tu as été appelé, et maintenant, tu as accepté l'offre que Dieu t'offrait de pouvoir rentrer dans la porte étroite. Puis maintenant, comme j'ai dit dans les deux autres points qu'on a vus, les leçons antérieures, il y a le chemin resserré qu'il faut marcher, frères et sœurs. Puis, il y a deux guides dans le chemin resserré. La parole de Dieu, puis le Saint-Esprit. C'est les deux qui sont là pour nous guider et nous garder dans la communion avec Dieu, puis nous garder dans le chemin de l'obéissance. On n'a pas été sauvés pour devenir rebelles, on a été sauvés pour obéir. On est sauvés pour obéir. Amen. Amen. On veut obéir, Seigneur. On est pécheur, on est perdu dans nos péchés. Tu me donnes la chance d'être pardonné. Merci. Puis là, je veux obéir. Je veux marcher dans tes voies. Je veux te servir. Je veux te suivre. Je veux porter du fruit pour toi. Je veux te le montrer que je t'aime. Puis là, on a saisi ça par la foi, puis on marche dans l'obéissance. Puis là, le Saint-Esprit, il sert de la parole de Dieu, puis il change nos pensées. Il commence une œuvre de changement. On n'est pas parfait en acceptant Jésus, mais on embarque dans le chemin pour se perfectionner. Pas juste, on va mettre des efforts. Oui, on va mettre des efforts. On va résister, on va combattre, on va réclamer des choses, on va proclamer des choses, on va rejeter des choses, on combat. Mais le Saint-Esprit est en nous, puis lui, il nous enseigne toutes choses, il nous rappelle toutes choses. Puis quand sa présence est là, il nous délivre des choses.
Amen.
Le Saint-Esprit nous délivre des choses qui doivent disparaître de nos vies, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Puis là, c'est ça le contact. Tu marches avec Dieu, puis le Saint-Esprit cède la parole de Dieu, il change tes pensées, puis là, il te délivre. Tu marches dans le chemin. Le critère qu'on va voir aujourd'hui, c'est la septième vérité, puis ça, on est en train de le vivre tranquillement, parce que c'est une histoire qui se vit tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que ça est venu nous chercher. S'il nous reste 5 ans à vivre, on va persévérer dans ce qu'on va voir aujourd'hui. S'il nous reste 25 ans à vivre, on va encore persévérer dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Faut persévérer, frères et sœurs. On a saisi le cadeau le plus important de ce qu'il y a dans cette vie. Même si tu as un salaire de 100 piastres dans l'heure, puis que tu fais des payes de 4000 piastres par semaine, puis que tu feras 200 000 par année, c'est rien si t'es perdu. T'es fait. Quand tu vas mourir, tu t'en vas dans l'étang de feu. C'est la condamnation éternelle à cause de nos péchés. Il faut passer par Jésus pour être pardonné. Ça, c'est la chose la plus importante qu'on n'a pas. Parce qu'à n'importe quel moment, par après, dans ta vie, si tu meurs tu t'en vas dans la présence de Dieu, dans la vie éternelle. Il n'y a pas de cadeau plus important que cela, frères et sœurs. En connaissez-vous d'autres des cadeaux plus importants que cela? Moi, j'en connais pas. C'est pour ça qu'il faut se rappeler ces choses puis les mentionner tout le temps, puis s'encourager à garder la foi, de marcher dans la vérité, puis cette vérité-là est en Jésus. Le message aujourd'hui, c'est la septième vérité, la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. Avoir une foi vivante, puis persévérer dans la foi, ne point abandonner la foi. Le Seigneur, il a appelé beaucoup de personnes à entrer dans son royaume. Des millions, puis des millions de personnes qui ont entendu le message de l'Évangile. Il appelle les gens à rentrer dans son royaume puis à assister aux noces de l'agneau. Ça va être extraordinaire, le party, le banquet qu'il va avoir. Les heureux et saints, ceux qui ont part, qui sont été invités au festin des noces de l'agneau, ça va être extraordinaire, ce jour-là. Puis l'ensemble de, pas l'ensemble de la planète, mais Dieu voudrait que l'ensemble de la planète y soit. Mais c'est clair qu'il y en a qui n'ont pas entendu parler, puis il y en a d'autres qui l'ont entendu parler, puis ils l'ont pas reçu. Puis il y en a d'autres qui l'ont reçu, puis ils l'ont abandonné en cours de route. Mais il faut démêler ça, frères et sœurs, il faut en parler de ces choses-là, afin qu'on reste fidèle, puis on s'accroche, puis on lâche pas cette promesse-là. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui persiste dans l'appel. Dans Matthieu 22, 14, le premier verset, ça nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dieu a appelé beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit, des millions et des millions, peut-être des milliards de personnes, des milliards dans toute l'histoire, sûrement qu'il y a des milliards de personnes qui ont été appelées pour être sauvées. Mais il y a peu d'élus. Il y en a peu qui sont rendus dans... à garder la foi jusqu'à la fin de leur vie. Il y en a qui ont mis leur foi, mais ils vont le voir, les choses qui peuvent bloquer les personnes puis les dérouter. Le premier passage qu'on va regarder, c'est dans Luc, au chapitre 8. Si vous voulez le lire avec moi, je vous laisse le temps d'aller le chercher. Au verset 4. Puis je crois que le Seigneur veut parler aux grandes foules qui s'avancent vers lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ignorer. Ils ignorent complètement ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, puis il y en a d'autres qui veulent pas l'entendre, carrément. Luc 8, verset 4. Mais Jésus veut parler à tous ceux qui s'est avancés vers lui, à tous ceux qui ont répondu à son appel, à tous ceux qui sont appelés. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, là. Mais Jésus veut parler à tout le monde. Dans Luc 8, 4, ça nous dit « Une grande foule s'étant assemblée, puis des gens venus de diverses villes auprès de lui, puis il dit cette parabole. » Jésus dit une parabole à une grande foule qui est intéressée d'entendre des choses de Dieu, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre le message de Jésus particulièrement. Ça dit que ça venait de partout le monde pour venir entendre le message. Je vous lirai pas la parabole, c'est la parabole de la semence. La semence qui a été semée sur le long du chemin, puis il y en a d'autres, la semence qui s'est été semée dans des endroits pierreux, il y a d'autres semences qui étaient semées dans des épines et des ronces, ça c'est des crachias, puis de tout ce que... Puis il y a une autre semence qui est tombée dans de la bonne terre. Dans les quatre exemples que Jésus nous donne, on parle de la semence qui est la parole de Dieu. Jésus, quand il donne l'explication, ça c'est en Luc 8, à partir du verset 11. C'est l'explication qu'on va regarder aujourd'hui. Dans la parabole, la semence qui est semée, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement qui sauve, parce que je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Fait que le message qui est dans la Bible, la parole de Dieu, peut sauver quiconque croit. Fait que si vous croyez, ce message-là peut vous sauver. Si le monde de Beauharnois y croit, ça peut sauver le monde de Beauharnois. Si le Canada au complet y croit, ça peut sauver le Canada au complet. Donc, c'est pas la parole de Dieu qui est faible, qui est défaillante, puis qui est pas efficace, puis qui accomplit pas son travail. Parce qu'elle a déjà sauvé beaucoup de personnes. La parole de Dieu, les gens qui sont accrochés au message de, qui est écrit dans la parole de Dieu, sont sauvés. Pourquoi que l'ensemble de, du monde ne l'est pas quand ils l'ont entendu? C'est parce qu'ils n'ont pas la foi pour recevoir la parole dans un cœur honnête et bon, puis vouloir pas changer de vie, vouloir porter du fruit pour Dieu. Dieu veut nous amener à cela. Puis dans son explication, Jésus en parle dans Luc 8, le verset 11, à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'Évangile. C'est ça qui est la semence, puis qui est répandue aujourd'hui par des gens qui vont semer la parole. Il y a des écrits qui sont écrits dans des livres, dans des journaux. Il y a des choses qui sont publiées à la télévision. Il y a des prédicateurs à la télévision qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des églises qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des sites Internet qui prêchent la parole de Dieu. Fait qu'elle semée partout, la semence. Le problème, c'est pas la semence. Le problème, c'est le cœur qui reçoit la semence. Il est là le problème. Le cœur de chaque personne. Au verset 12. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, puis enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Fait que là, il y a du monde qui l'ont reçu, puis ils peuvent même c'est être content de leur savoir. Ils ont entendu, ils ont compris des choses, puis là, le diable vient, puis enlève tout ce qui, comme j'ai dit tantôt, je l'avais mentionné, il enlève les pensées qu'ils ont reçues, ils ont compris, hey, Jésus peut me sauver, je peux avoir la vie éternelle à cause de son sacrifice. Il entend tout ça, mais en sortant de l'église, il oublie tout. Pourquoi qu'il oublie tout? Parce qu'il y a un mauvais esprit qui travaille sur cette personne-là, puis il enlève toutes les pensées. C'est un mauvais esprit-là, brosse la vie de la personne, puis la personne, il arrête toutes sortes d'affaires, puis elle oublie les choses les plus essentielles, le salut de son âme. Pourquoi que le diable travaille pour enlever ça dans le cœur des gens? Vous pensez? Parce que lui, le diable, il sait qu'il s'en va dans les temps de feu. La Bible nous le dit que les temps de feu étaient créés comme un jugement pour le diable et ses anges. Vous irez lire ça dans Matthieu chapitre 25. Puis le diable, en méchante personne qui est, il essaie d'emmener le plus d'humains possible avec lui pour être au même châtiment que lui. Fait qu'il s'arrange que le monde oublie la parole de Dieu. Il s'arrange pour empêcher le monde d'entendre la parole de Dieu. Les gens peuvent même avoir été invités à aller à l'église. Là, il arrive, le tuyau pète dans la maison, il y a de l'eau qui revole, puis le gars va pas à l'église cette journée-là, puis il reçoit pas le message qui était supposé. Puis il y a toutes sortes d'empêchements qui peuvent arriver que l'ennemi fait pour nous empêcher. Il nous met des mauvaises pensées, il nous rend malade, il arrive des épreuves, il y a toutes sortes d'affaires qu'il fait. Puis quand tu l'as reçu, il s'arrange que les personnes l'oublient pour qu'ils repensent pas à ça dans la semaine. Puis des fois, ils vont être 2-3 semaines sans aller entendre d'autres messages. Fait que leur cœur s'est refroidi, ça a tout sorti de leur idée, puis ils pensent plus à leur salut. Ça, c'est pas moi qui ai inventé cela, c'est écrit dans la parole de Dieu. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, c'est un chemin là, qui a beaucoup de roches. Ils ont reçu la parole, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils l'ont su la parole. Ils ont entendu la parole. Ils étaient même joyeux de l'entendre. Ils ont cru en la parole. Puis ils l'ont su, ils ont marché un bout pour un temps. Un mois, 6 mois, 3 ans. 5 ans, même si tu lâches au bout de 25 ans de vie chrétienne, t'as cru pour un temps. T'as pas cru tout le temps. Voyez-vous qu'il y a une différence? Tu peux croire pendant 20 ans de ta vie, puis finalement dire, moi j'ai plus le temps de m'occuper de ça. Je suis trop occupé, trop d'affaires à faire. Pourquoi qu'on en arriverait là? parce qu'il n'y a pas réellement de racines profondes dans leur foi pour vouloir enraciner leur vie puis se décider de bâtir leur vie sur la parole de Dieu. Décider de faire son fondement, que la Bible devienne ton fondement, ta fondation. Tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Tu y crois assez pour l'appliquer à ta vie. Mais des gens, au lieu de s'enraciner dans la parole, ils aiment les choses qui sont autour, peu importe les raisons. Jésus, ce qu'il regarde, t'es-tu enraciné? Ça t'intéresse-tu plus que n'importe quoi? Mais si t'es pas à ce niveau-là, c'est pas long qu'il va arriver des épreuves dans ta vie, puis t'abandonnes. C'est ce que c'est Jésus qui dit ça. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, parce que là, il y a de la terre, mais il y a aussi des épines puis des ronces. Les épines puis des ronces, c'est des crachias. Puis on sait que la mauvaise herbe pousse vite. Hein? Tu vas semer ta semence, là, puis la mauvaise herbe, ça pousse toujours plus vite que ton plant que tu es en train de semer. Qu'est-ce qu'un fermier est obligé de faire? Arracher la mauvaise herbe, il est obligé d'aller sarcler, il est obligé de passer soit de machine ou d'y aller à la main, là, puis de revirer la terre qui est autour du plant pour que toute la mauvaise herbe qui pousse autour, qu'elle meure là, pour pas qu'elle pousse plus vite que le plant, puis là, à cause qu'elle est plus haute que le plant, il n'y a plus de soleil qui va sur ton plant, puis ton plant, il est étouffé, puis il meurt. Mais il dit la parole de Dieu, c'est la même affaire. Il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu, mais il y a d'autres choses qui poussent dans leur vie, des choses bien intéressantes pour cette personne-là, qui fait que ça l'empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Ça l'empêche la parole de Dieu de grandir dans la personne. Puis la personne, sa vie est étouffée. Puis il n'y a pas de fruit de sa vie chrétienne. Pourtant, c'est la même parole toute puissante qui peut sauver quiconque croit. Verset 14, ça dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, puis ils portent pas de fruits qui viennent à maturité. La parole a commencé à pousser dans leur cœur. Ça poussait, mais il y a d'autres choses qui ont poussé qui était plus intéressant pour cette personne-là que la parole. Pourtant, elle l'avait reçue, la parole. Puis la personne n'arrive jamais dans une maturité chrétienne au point de porter du fruit pour Dieu. Fait qu'ils peuvent être assis dans l'église, les gens, ils sortent de l'église, ils pensent qu'aux choses de la terre, puis les plaisirs, ça nous en nomme des exemples, des soucis. Il y en a-tu qui s'inquiètent des fois, mais que l'inquiétude soit plus forte que la foi en la parole. Puis que là, l'inquiétude est tellement forte qu'on passe son temps à confesser des choses négatives parce qu'on ne croit pas que Dieu est capable de nous en sortir. Puis là, on peut tellement se laisser ensevelir par les inquiétudes que la parole n'a pas de fruit. Tu n'arrives jamais à avoir la foi pour sortir de là qui porte du fruit dans ta vie. Ou courir après l'argent. Le gars peut travailler sans arrêt 90 heures par semaine. C'est les richesses qui l'intéressent. Il s'investit pas pour augmenter sa foi. Il s'investit pour augmenter son portefeuille. Ce n'est que ces choses-là qui l'intéressent. Là, il peut avoir trois jobs en même temps. Puis là, il est fier. J'étais un gars bien travaillant. J'ai trois jobs. Oui, mais c'était trois jobs. À quoi ça sert de gagner tout l'univers si tu perds ton âme? À quoi ça sert de courir après toute la richesse de ce monde? On a-tu besoin? Je te dis pas qu'il faut pas travailler. Oui, il faut travailler. Mais ça doit pas être notre priorité. Notre priorité, c'est le salut de notre âme. D'être pardonné de nos péchés, puis de garder la foi, puis travailler à augmenter notre foi. Puis les plaisirs de la vie. Imaginez-vous dans le temps de Jésus, qu'il y a des gens qui abandonnaient la parole de Dieu pour les plaisirs de la vie de ce temps-là. Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y avait de plaisant dans ce temps-là, qui était si plaisant que ça, dans une vie qui n'avait absolument rien devant eux autres. Il n'y avait rien, il n'y en avait même pas un char, même pas rien. C'est à peine s'il y avait une mule, c'est même pas tout le monde qui avait une mule.
Il n'y avait pas de télé.
Il Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas rien pour se divertir. Il n'y a pas les jeux de société qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait rien. Puis il y en a qui, que les plaisirs de ce moment-là, je pense que les seuls plaisirs qu'il y avait dans ce temps-là, c'est la sexualité, le plaisir de s'enivrer puis de manger comme un cochon, là, comme à faire des orgies. À part de ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre de plaisir. Ils partaient pas en voyage à payer des 5 à 10 000 piastres, partir en voyage pour aller visiter un pays. Ça n'existait pas. Ils partaient en mule, puis s'ils se rendaient à un village à côté, qui avait 3 kilomètres, c'était un exploit pour eux autres, là. Fait que, imaginez, dans ce temps-là, il y a du monde, à cause des plaisirs de la vie, qui ont pas grandi dans le Seigneur pour arriver à avoir des fruits. Fait qu'imaginez-vous, dans le temps qu'on vit aujourd'hui, avec tous les plaisirs par milliers de fois plus grands que les plaisirs qu'il y avait dans ce temps-là, comment est-ce qu'on peut se laisser étouffer facilement si on ne veille pas à regarder nos yeux à bonne place? C'est plus important à veiller sur notre vie spirituelle qu'à tout ce qu'il peut y avoir autour. Restons connectés, frères et sœurs, sinon on ne portera pas de fruit qui vient à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. C'est Jésus qui dit ça. Ils la retiennent, puis ils portent du fruit avec persévérance. On est en train justement d'étudier c'est quoi la persévérance, le mercredi passé, dans l'étude de Jean, qu'on en a parlé un peu. Je vais vous revenir avec le mot persévérance, qu'est-ce que ça veut dire. Dans le dictionnaire du mot grec, le mot persévérance, c'est persévérance, patience, fermeté, constance. Ça veut dire, il porte du fruit avec constance, il porte du fruit avec fermeté. Ils veulent porter du fruit. C'est un cœur honnête et bon. Ça. Quand quelqu'un veut rester accroché à Dieu, c'est un cœur honnête et bon. Si quelqu'un il s'en fout de ce que Dieu dit puis il prend ça à la légère, c'est pas un cœur honnête et bon. Le cœur honnête et bon, c'est celui qui va retenir la parole. Pour lui, c'est ce qui est le plus important. Puis ils vont porter du fruit avec constance, avec fermeté, avec patience, avec persévérance. On l'a vu dans le Nouveau Testament, avec endurance. Le mot endurance est dans ce mot-là. Tu portes du fruit, puis tu endures ta vie, tout ce qui peut t'arriver comme soucis, inquiétudes, problèmes, combats, luttes, oppression, attaque de l'ennemi, attaque du monde. Avec endurance, avec constance, avec fermeté, tu décides de porter du fruit pour Dieu parce que tu es attaché à Dieu.
Amen.
C'est à cela que Dieu veut nous amener, frères et sœurs. Sans ce cœur-là, tu t'offres pas. Tu peux être assis à l'église puis pas avoir ce cœur-là. Est-ce que c'est important pour vous, la parole de Dieu?
Oui.
Mais arrivez à ce niveau-là, qu'il n'y a rien de plus important que cela, puis enracinez-vous là-dedans, gardez-la. Puis pour la garder, c'est de la lire, de la méditer, de l'écouter, d'écouter des messages, des explications, puis toujours rester là-dedans, puis dire, Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole. Plus que toute autre chose, garde-moi que je m'éloigne, que je me refroidisse, que je décide de regarder à trop aux choses extérieures, puis que là, je décide d'abandonner. Il y a plusieurs fausses raisons que les gens se donnent pour abandonner. Je dis pas que la personne vivait pas des choses. Oui, la personne vit des choses comme tous les chrétiens. Les mêmes épreuves sont imposées à tous les frères dans le monde. Tout ce qu'on peut vivre comme problème, attaque du diable, problème de la vie, on n'est pas tout seul qui vit présentement sur la planète. Il y a 7 milliards d'individus qui vivent dans des conditions, il y en a au moins 5 milliards là-dessus, qui vivent beaucoup plus pire que qu'est-ce qu'on peut vivre présentement nous-mêmes. On est dans les 3% de toute la planète qui a la plus belle vie sur la Terre.
Amen.
Gloire à Dieu, merci Seigneur, on va en profiter sur le bon bord, mais pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de confort là-dedans, beaucoup de divertissement, beaucoup de choses qui peuvent étouffer la parole puis l'empêcher de porter du fruit. Bon, un des points qu'il y a plusieurs raisons qui se donnent pour abandonner le chemin, c'est la peur de la persécution. Dans Matthieu 10, le verset 21 à 22, Jésus avertit ses disciples. Le frère livrera son frère à la mort. Merci Seigneur, mon frère, lui, s'est converti. J'ai pas peur. Mais le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. C'est qui ça, vous? Nous, les chrétiens, vous serez haïs de tous. À cause de quoi? À cause de mon nom. C'est parce que le nom de Jésus sur nous qu'on se fait haïr. Faut pas se laisser surprendre. Ils ont haï Jésus ou ils l'ont aimé. Fait qu'ils vont nous faire la même chose à nous, soit qu'ils vont nous aimer ou soit qu'ils vont nous haïr. Ça dépend s'ils aiment Jésus ou pas. Mais, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais, le beau mais que là, c'est là la condition, c'est là qui est le point principal Jésus qui veut en venir. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On voit dans ce passage-là, vous allez vous faire haïr, même vos familles vont se revirer contre vous. Autrement dit, vous n'aurez même pas un lieu personnel pour vous reposer avec vos membres de vos familles. Je dis pas que toutes les familles chrétiennes qui sont comme ça, mais il y a certains chrétiens qui ont des familles, aucun chrétien dans leur famille, puis ce n'est que des choses négatives qu'ils reçoivent de leur famille. Léa m'a confié, il y en a d'autres qui c'est comme ça dans leur vie, vous n'êtes pas la seule sur la planète, il y en a des milliers, puis des centaines de milliers, il y en a que dans leur famille, les membres de leur famille tranchent la gorge de leur famille, de leur propre. Ça le dit dans ce verset-là. Il dit, les enfants soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Il y a des assassinats de parents. Puis il y a le frère qui livre son frère, le père son enfant. Puis des soulèvements, des chicanes, des guerres, des familles à cause que Jésus est entré dans la maison. Dans cette personne-là. Puis là, il y en a qui abandonnent Jésus. À cause qu'il y a de la persécution familiale. Jésus il veut nous encourager et dit, il va vous arriver toutes sortes d'affaires dans vos familles. Vous allez être même haïs de tous. Mais il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Persévérer dans quoi? Dans la parole, persévérer à regarder la foi dans la vérité, puis de rester ferme en Jésus. Il n'est pas question qu'on renie Jésus. Il n'est pas question qu'on l'abandonne, puis qu'on se dit, moi, j'ai plus le temps. Non, peu importe les souffrances, moi, je veux suivre Jésus, puis je vais le suivre jusqu'à quand? Jusqu'à la fin.
Il
n'y
a rien d'autre, anyway.
À qui rions-nous? C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Mais voyez que la condition qui est là, c'est celui qui va persévérer malgré les épreuves, les soucis du siècle. C'est les problèmes familiaux aussi. C'est ça que Jésus a voulu soulever. Parce que c'est quelque chose quand tu es tout seul dans ta vie pour vivre, puis même ta propre famille ne t'aime pas, puis ne t'encourage pas, puis tu essaies de les amener au Seigneur, mais ils rient du Seigneur, puis ils se moquent de toi, puis là, s'ils te persécutent, puis ils te font mal, puis ils te crachent dans la face, puis ils te disent des insultes, puis là, ils veulent même t'assassiner. Il y en a que c'est leur femme qui est comme ça envers le mari, que la femme veut rien savoir, puis là, c'est une guerre. Tu vas pas encore à l'église, là? T'es fatiguant avec ton église. J'en connais des frères comme ça qui vivent cela. C'est une guerre. Mais quelle est l'attitude qu'on doit avoir quand on est dans cette guerre-là?
On peut prier pour ceux qui nous persécutent.
On va prier, oui. Mais il faut se dire, je lâcherai pas, puis je vais faire continuer à passer le Seigneur en premier.
Amen.
À Chial, moi je veux suivre Jésus. Ça, c'est quel avantage qu'on aurait d'écouter ceux qui critiquent? puis de dire, ben moins de bord, je vais y aller moins souvent. J'ai décidé, je ne vais plus pour faire plaisir à notre femme. Mais qui est le plus important, Dieu ou notre femme? Si notre femme est rebelle à Dieu, est-ce que je dois abandonner Dieu pour me joindre à ma femme? Pas en tout, c'est le contraire. Je vais devenir plus bouillant pour le Seigneur, puis je vais, là, l'onction de Dieu va être encore plus forte sur ma vie, puis ça va travailler son cœur, puis elle peut se repentir. Il y en a des gens qui se sont repentis 20 ans plus tard. J'en connais. Oui. Mon frère, quand avant je me convertisse, il me persécutait avec les paroles. Il s'en rappelle peut-être plus, mais moi, je m'en rappelle. J'ai eu des moments difficiles, mais la semence se semait, puis je priais sur mon bord. C'est 20 ans plus tard que c'est converti. Alléluia! Faut pas se décourager, frères et sœurs. Dieu exauce les prières. Gloire à Dieu. Mon frère pourra vous raconter son témoignage, je vais vous répéter les mêmes affaires que je viens de vous dire. Il y a d'autres points, d'autres raisons que se donnent des gens pour abandonner le Seigneur. Dans Matthieu 24, le verset 11. À cause de la séduction par le mensonge ou séduit par l'iniquité et le péché. Séduction, là, je ne sais pas si vous savez c'est quoi être séduit. C'est comme tu tombes, « Oh, elle est donc bien belle. Où t'étais toute ma vie, toi? » La personne est comme hypnotisé par qu'est-ce qu'il voit la fille, puis il est tombé comme un coup de foudre. Mais en réalité, c'était pas sa femme. Il n'y a pas d'affaire à tomber dans cette séduction-là. C'est un piège dans sa vie pour détruire sa vie. Puis là, c'est bien beau de dire, je veux avoir des conquêtes. C'est le péché, c'est la voie du péché qui mène à la mort. T'as ta femme, tu te maries avec, point final, tu la gardes jusqu'à la fin. Puis si tu l'as laissée, tu t'attends. Tu attends qu'elle vienne au Seigneur. Mais par la séduction, il y a des choses séduisantes qui nous intéressent. Puis dans le Matthieu 24, le verset 11, ça nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. » Ça veut dire un faux prophète, c'est une personne qui enseigne des fausses religions, une fausse manière de croire en Dieu ou de vivre sa vie chrétienne. C'est une religion. Il y a une seule Bible, puis il y a au moins 2000 religions sur la terre. Une seule Bible. Ça veut dire que ça se peut-tu qu'il y en a qui ont démentri, qui en ont rajouté ou ils en ont enlevé de ce qui était écrit? Ça dit qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont se lever puis qui vont séduire beaucoup de gens. Ils vont dire, écoute-moi, mon petit garçon, on va te le dire, c'est quoi qui est la vérité. Là, ils te disent un paquet d'affaires qui n'est même pas écrit dans la Bible. Là, ils te disent, fais ça, tu vas être sauvé. Là, la personne qui est séduite, oui, moi, j'aime mon gourou. Il me dit toutes sortes d'affaires. Il suit aveuglement, sans vérifier dans la Bible si c'est vrai. Puis la personne croit en n'importe quoi d'autre qu'en Jésus-Christ. Ça nous dit qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont être séduites par des fausses religions, des faux prophètes. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'iniquité, là, c'est du péché. Vu que le péché va s'accroître, la charité du plus grand nombre se refroidira. Savez-vous c'est quoi la charité? Je l'ai déjà dit. La charité, c'est le mot amour. Mais l'amour qui vient de Dieu, produit par le Saint-Esprit. Parce que dans le fruit de l'Esprit, le premier qui est mentionné, c'est l'amour, c'est la charité. C'est l'amour de Dieu produit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Là, Jésus est en train de dire qu'il va avoir de mes disciples qui vont se faire séduire par des faux prophètes, puis il y a de ses disciples qui vont augmenter dans leur vie leur péché, leur iniquité, fait que la charité va se refroidir. La charité, c'est produit par le Saint-Esprit. Si tu pratiques le péché, tu peux pas marcher dans les fruits que l'Esprit va produire. Fait que tu marches plus dans l'amour, tu te refroidis. Fait que ce qui peut nous séduire, c'est des faux prophètes et le péché. Ça, ça peut nous refroidir. Puis Jésus, au verset 13, qui est encore dans le même verset, « Mais, c'est encore auquel beau mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça répète encore la même phrase que tantôt. T'as beau avoir des gens qui veulent te persécuter, persévère jusqu'à la fin. T'as beau avoir des gens qui t'enseignent des faussetés, persévère jusqu'à la fin. T'as beau même voir le péché augmenter dans l'Église, puis que là, l'amour de Dieu diminue dans l'Église, persévère jusqu'à la fin, parce que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Un autre verset qui nous parle de ça, c'est 1 Timothée 4:12 qui dit « L'Esprit dit expressément, 4:1, excusez, 1 Timothée 4:1, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la filiature dans leur propre conscience. » L'Esprit Saint a dit à Paul, il a écrit ça, le Saint-Esprit a averti expressément que dans les derniers temps, c'est quand ça les derniers temps? Mais on est pas mal dedans. Des derniers temps, il y en a qui abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Jésus l'a dit, puis l'apôtre a été averti par le Saint-Esprit que ça va être comme ça. Fait que, ils vont abandonner la foi. Frères et sœurs, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. L'abandon de la foi, le relâchement, se détourner de Jésus pour vivre selon le monde, ou décider de vivre sa propre vie, indépendamment de ce que Dieu dit, c'est un relâchement-là, la Bible nous en parle dans Colossiens 1, le verset 22. Il y a des gens qui, à cause de, ils ont le goût de vivre leur vie selon leur vie, selon leur manière de voir. Même après avoir connu Jésus, ça les éloigne du Seigneur. Dans Colossiens 1, 22, ça dit, Jésus, par sa mort, dans le corps de sa chair, il veut nous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Jésus, c'est son but. Il veut nous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible, sans reproche. Il veut nous amener à cela dans le chemin resserré. Si, une autre condition, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu puis qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Voyez-vous, Dieu veut nous amener à paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Il veut qu'on arrive à se présenter devant lui comme ça, si du moins vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détourner. Parce qu'il y a des gens qui, au cours de route dans leur vie, ils ont décidé de laisser faire un peu. Oh, je vais juste laisser faire. Ma vie chrétienne, là, faut pas être trop zélé pour Dieu, faut pas être trop, prendre trop ça à cœur. Puis là, on profite de ce qu'il y a autour. Si là, on embarque dans toutes sortes de plaisirs de la vie, soucis du siècle, séduction des richesses, c'est toutes des affaires qui étouffent la parole et qui la rendent sans fruit. Fait qu'une personne qui il sort du chemin resserré, il est plus fondé, inébranlable, il a plus le goût de suivre, mais il rentrera pas. C'est ce que ça dit. Vous allez paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si tu demeures fondé et inébranlable dans la foi, sans te détourner. Parce que ceux qui se détournent, ils sont perdus. Il n'y a pas d'autre manière pour être sauvé que de passer par Jésus. Fait que notre foi, où est-ce qu'on va la mettre? Persévérons dans la foi jusqu'à la fin, sans nous détourner. Un autre passage dans Hébreux qui confirme encore cette idée-là, au chapitre 10, le verset 39. Ben, 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra puis tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais, il y a encore un mais. Il y en a souvent des mais puis des si. Ça, c'est des conditions. Des conditions que Dieu a mis. Faut pas penser que la vie chrétienne, c'est une vie sans conditions. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'a pas de condition. Ils croient en Jésus, je crois que Jésus c'est le sauveur. Hein, oui, le diable aussi il croit, puis il tremble. C'est pas suffisant, je crois. Il y a un paquet de conditions. Persévère. Il dit, il y a besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le mec qui est là dans la phrase, il dit, mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Si on se retire du chemin de la foi, Dieu n'a plus de plaisir dans nous, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Faut que tu aies la foi en Dieu, c'est ça que Dieu aime, ce qu'il trouve agréable dans l'être humain. Parce qu'à part de la foi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de bon qui plaît à Dieu? Rien. Notre vie n'est qu'une vie de péché à tous les jours. Même dans notre vie chrétienne, après 20 ans, on en fait encore. Parce qu'il y a des péchés, des choses qu'on fait qui ne plaisent pas à Dieu. Puis il y a des péchés, c'est des choses que tu aurais dû faire que tu n'as pas faites. Fait que des péchés par commission ou omission, il y en a la tonne. La seule affaire qui plaît à Dieu, c'est ta foi. Fait qu'il dit dans ce verset-là, si tu te retires, son âme à Dieu prend plus plaisir en toi. Puis là, Paul, il revient à la charge pour avec une parole encourageante. Il dit, nous, en parlant de Paul, lui, il savait où s'en allait, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen.
Amen.
Avez-vous ce genre de foi-là, une foi inébranlable, fondée, et que vous décidez de garder cette foi-là jusqu'à la fin? Puis cette foi-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la foi en la parole de Dieu, au message, aux promesses de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Si tu t'accapares de cela, tu t'enracines dans la parole de Dieu, tu lâches pas, tu restes dans ta foi, puis tu persévères dans le chemin, tu vas obtenir les promesses de Dieu. Amen.
Amen.
Un dernier exemple négatif que la parole parle. Après ça, je vais amener des choses positives. J'aime pas ça, parler de choses négatives, parce que ça n'encourage pas de parler de versets qu'il arrive des choses négatives, mais ils sont là dans la Bible, il faut en parler. Un exemple de quelqu'un qui abandonne la pratique de la parole de Dieu. Dans 2 Pierre 2, le verset 20 à 22. Ça parle à des chrétiens encore. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, là c'est quelqu'un qui est chrétien, qui a connu Jésus-Christ, il marche en contact avec, puis là il vit des choses que Dieu te sort des souillures du monde. Tu commences ta vie commence à être sanctifiée, à être purifiée, parce que tu apprends des choses sur Dieu, puis le Saint-Esprit te libère de choses. Après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, là, t'apprends des choses sur Dieu, t'apprends des choses que si tu marches en contact avec, le Saint-Esprit te libère. Fait que là, tu sors des choses du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et là, en effet, si après s'être retiré, à cause de la connaissance, il s'y engage de nouveau. Wow! Là, ça dit, après avoir sorti du monde, là, tu t'engages de nouveau à retourner à vouloir vivre dans le monde. Et sont vaincus. Il dit, leur dernière condition est pire que la première. La première, c'était avant que tu connaisses Jésus, tu étais dans le monde, tu étais dans le péché, tu étais esclave du péché, tu étais perdu. Mais si tu sors des souillures du monde, puis par la connaissance de Jésus, tu marches dans le Seigneur, tu as commencé à goûter à sanctification, puis là tu lâches, puis tu te retournes vers les choses du monde, puis tu te rengages dans les choses du monde, dans tes péchés, c'est ça qui est le point, dans retourner dans tes péchés, puis là tu es vaincu par ce péché-là qui domine sur ta vie, ce ou ces péchés-là. Il dit que ta dernière condition est pire que la première. Le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que s'en détourner après l'avoir connue. Du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée a s'est revautrée dans le bourbier. C'est un proverbe qui disait, le chien retourna à ce qu'il avait vomi. L'exemple de la personne qui arrive à Jésus, a vomi sa vie, elle ne veut plus rien savoir, puis là, elle accepte Jésus, puis là, sa vie commence à changer. Là, t'es béni. Puis le moment que la personne dit, moi, j'en ai assez, puis il est encore tenté par ses anciens péchés, puis il se détourne de Jésus, quand j'ai plus le temps de m'occuper de ça, il ne veut plus persévérer dans la foi. Il veut retourner dans ses péchés. Il dit, la dernière condition est pire que la première parce qu'il est retourné manger son vomi. Il dit, c'était mieux de ne pas l'avoir connu, le nouveau chemin en Jésus, que de l'abandonner. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Pourquoi pensez-vous? Le remords éternel puis le jugement de Dieu va être encore pire. La personne là, va être encore plus tourmentée de se dire, je l'avais, je marchais avec le Seigneur, j'ai vécu des choses extraordinaires, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout abandonné pour retourner dans mes péchés, puis là, je suis perdu. Le tourment éternel va être encore bien plus grave pour celui qui a abandonné que quelqu'un qui a jamais connu. Puis le jugement de Dieu aussi, parce que Dieu est aussi un feu dévorant, puis Dieu il y a une ardeur contre ceux qui se sont rebellés à sa parole après l'avoir connu. Un feu, l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, que ça nous dit dans un passage. Dieu veut pas que ça arrive. Il nous a amenés à lui pour qu'on puisse le recevoir parce qu'il nous veut. Il nous a appelés pour qu'on soit sauvés, pas pour qu'on abandonne. Si quelqu'un abandonne, c'est parce qu'il a abandonné son cœur honnête et bon, puis a décidé de mettre ça de côté. Il s'est refroidi. Il a décidé de retourner à son vomissage. Je vais vous dire rapidement quelques points qui sont écrits dans la parole qui vont nous permettre de persévérer. On a besoin de persévérance, qu'on a vu tantôt, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtienne ce qui a été promis. On a besoin de persévérance. Où est-ce que je vais aller chercher la force pour être capable de persévérer dans ce chemin-là? Parce qu'aujourd'hui, on se dit tout va bien. Là, c'est facile d'être chrétien quand tout va bien. Mais ça se peut qu'il y ait des journées que ça y aille plus bien. Je vais-tu avoir la force de continuer à garder la foi malgré tous les problèmes qui pourraient nous arriver? Il y a des choses que Dieu nous demande dans sa parole, que Dieu nous mentionne, qui va nous renforcer, frères et sœurs. Le premier, il faut s'accrocher aux promesses du Seigneur qui nous promet de nous soutenir. Dans Apocalypse 3:10, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Jésus dit « persévère ». Puis ça, cette parole-là de Jésus qui nous dit de persévérer, il dit « parce que tu as gardé cette idée-là de vouloir persévérer, parce que tu veux obéir au Seigneur. » Et Jésus qui dit ça, « parce que tu veux garder la parole, persévère jusqu'à la fin. » Mais Jésus dit « je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les gens de la terre. » Dans pas long, ça va aller mal sur la terre. Ça va déjà mal, pas mal, mais ça va aller mal partout. C'est pour éprouver les gens de la terre que Dieu va permettre que l'Antéchrist rentre au pouvoir, puis qu'il punche le monde de la marque de la bête, puis que les gens qui savent que ça ne fait pas partie du plan de Dieu, Dieu veut pas qu'on se fasse puncher par un système de gouvernement qui veut nous graver quelque chose sur nous pour nous contrôler financièrement. Dieu appelle ça la marque de la bête. Puis ça va être installé pour étamper tout le monde entier. C'est écrit. Puis les chrétiens vont être là, puis dans le verset, vous irez lire dans Apocalypse chapitre 13, il parle de cela, puis à Apocalypse chapitre 14, il y a un paragraphe qui dit, si quelqu'un reçoit la marque sur son front ou sur sa main, ça nous parle du jugement qu'il va avoir ces gens. Ils vont être tourmentés dans le feu, dans le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau, puis leur tourment monte au siècle des siècles, puis n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Puis là, ça dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Fait que les chrétiens vont être là quand ça va arriver. Puis c'est une épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Puis là, Jésus nous dit, parce que tu as décidé de persévérer en moi, je vais te garder à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il va nous garder dans quoi? Il va nous garder dans la foi, il va nous fortifier, il va nous aider. Parce qu'on veut persévérer, il va nous donner la force nécessaire. C'est une promesse. Puis vous savez que les promesses s'accomplissent dans ceux qui croient en sa parole. Croyez en cette parole, croyez que Dieu va vous garder, puis vous allez voir que Dieu va le faire.
Amen.
Un autre verset dans 1 Pierre 5, 10, ça nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, on ne sait pas combien de temps ça dure un peu, des fois c'est un peu, c'est 30 ans. Pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Un peu, ça peut être 40 ans, ça peut être un an. Après qu'on aura souffert un peu de temps, il va nous perfectionner lui-même, il va nous affermer, il va nous fortifier, puis il va nous rendre inébranlables. Fait que si vous voulez de la force, appuyez-vous sur Dieu, accrochez-vous à ses promesses, attendez-vous qu'il vous renforcisse dans le Seigneur. Un autre point que Dieu nous dit, veillons à rester bouillants pour le Seigneur. C'est quelque chose, personnellement, je dois veiller. Est-ce que je suis bouillant? Apocalypse 3, 15, ça nous dit, Dieu qui parle, « Et je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. La personne est tiède. Dieu, il voit si on est froid pour lui, ou si on est tiède, ou si on est bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il n'y a pas de place pour les froids ni les tièdes. Dieu veut les personnes bouillantes pour lui. Comment est-ce qu'on peut passer à travers de toutes les persécutions ou les grandes tentations si j'ai pas le goût d'être bouillant pour le Seigneur? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand tu te le refroidis, tu n'as plus le goût. Tu n'as plus d'excitation. Tu n'as plus de passion, tu n'as plus le désir, tu n'as plus d'intérêt, ça ne te tente plus. Tu es indifférent. Tu penses que tu es correct comme que tu es. C'est ça qui est arrivé, je vais relire le reste du texte. Les gens se disaient, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. C'est ça que ce monde-là se disait à ceux qui étaient adressés cette parole-là. Dieu dit, tu sais pas que tu es aveugle, pauvre, misérable. Élu. Tu le sais pas, tu as besoin d'avoir un collier, un médicament, mettre sur tes yeux pour que tu puisses voir. Les gens, ils se contentent de leur état, puis ils disent, j'ai pas besoin de changer rien. Quand t'es rendu de même, là, t'es rendu tiède. Faut toujours se dire, Je veux plus du Seigneur. Je suis pécheur. Je suis pas capable de m'en sortir. Je vais marcher dans la foi, Seigneur. Je veux persévérer. Je veux m'accrocher à toi. C'est toi qui es ma force. Moi, je suis pas capable. Puis j'ai toujours besoin de plus de Dieu.
Amen.
Oui, il faut toujours confesser cela. C'est quand tu as ça dans ton cœur, cette attitude-là, tu es un bouillant. Si tu n'as pas ça, tu es tiède, ou pire, tu es froid. Froid, c'est tu veux rien savoir. Un autre point, ça nous dit de veiller dans la prière afin d'aller puiser la force spirituelle. Tu veux persévérer jusqu'à la fin, pense pas que tu vas être capable par tes capacités. Oh, moi, je suis assez fort. S'il y en a un qui vient m'empêcher de suivre Jésus, tu vois ça, moi, il me met mon poing sur le nez. Ça règle rien, cela, puis tu persévères pas dans la foi quand tu penses que tu es assez fort. Puis la place, que l'endroit où ce que Dieu nous dit dans ce verset-là, où ce qu'on va aller puiser de la force, c'est dans la prière. Dans Luc 21:36, ça nous parle justement, en plus, dans le contexte du retour de Jésus, puis comment ça va être dur dans cette période-là. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Tout le temps. Priez, veillez, restez éveillé, c'est être alerte. Être conscient de ce qui se passe dans ta vie. Puis de vouloir être debout, à garder la foi, à veiller si t'es bouillant. Puis prie sans cesse, prie tout le temps. Parce que qu'est-ce qui va nous arriver parce qu'on prie? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le seul moyen d'avoir la force de rester debout devant Jésus, lorsqu'il est encore debout devant Jésus lorsqu'il reviendra, c'est dans la prière. Veille sur ton cœur, veille sur tes pensées, veille sur ton état spirituel, veille savoir si t'es bouillant, puis prie, sans cesse, priez sans cesse. Puis là, ça dit qu'on va être équipé d'une force, puis ça va nous aider à garder la foi, à persévérer dans le chemin. Y a-tu des amen dans cela? Gênez-vous pas pour en dire des amen. C'est pas à la parole de Daniel que vous dites amen, c'est à la parole de Dieu. Puis si vous savez ce que ça veut dire, le mot amen? Hein? Qu'il en soit fait ainsi. En vérité, je vous le dis, mais le mot en grec est là, c'est amen. Amen, je vous le dis. Un autre point qui va nous renforcer, qui est écrit dans la parole, j'achève, reste deux versets. Hébreux 10, 23. L'importance de la communion avec d'autres chrétiens. Tu peux pas vivre ta vie chrétienne complètement sans être en contact avec d'autres chrétiens. Impossible. Tu vas tomber. C'est sûr, tu vas t'éloigner, tu peux pas arriver à une maturité spirituelle. Tu peux penser que tu l'es, mais tu l'es pas. Dans Hébreux 10, 23 à 25, ça nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça nous dit dans ce passage-là, veillons les uns sur les autres, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est en train de nous dire, tu veux rester bouillant, tu veux persévérer, va où ce que des chrétiens, reste connecté avec des chrétiens, encouragez-vous les uns les autres, pour que vous puissiez avoir la force d'aller de l'avant, puis vous puissiez en continuer à faire les œuvres que Dieu a préparées. Abandonnez pas de vous regrouper. Vous la savez, le groupe d'un troupeau de moutons, là, puis il y a une brebis qui s'éloigne là, du troupeau. Le loup, ce qui va aller, où ce qui, quelle brebis qui va sauter? La celle qui est tout seul. Les celles qui sont dans le troupeau, là, sont protégées par le chien berger et le berger lui-même. Son bâton rassure les brebis. Le bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est donné un petit coup, oh, la brebis, elle reste là. Tant que tu restes dans le troupeau, t'es protégé. Le chien court, puis s'il y a un loup, il va y sauter dans la face. Mais ça, c'est une bûche aussi. Tu prends un feu, tu allumes ton foyer. Si tu enlèves une des bûches qui était parmi le feu, que tu la laisses là, là, elle va s'éteindre. Mais la vie spirituelle, c'est la même affaire. Si on ne veut pas s'éteindre, restons en groupe. Connectez-vous avec des chrétiens, parlez avec des chrétiens, priez avec des chrétiens. Allez même à veillons les uns sur les autres. Veillez, là, c'est je regarde les autres comment ça va. Puis là, quand je les vois, faut que je leur parle pour les encourager dans le Seigneur. Abandonnez pas ce groupe-là, ou allez dans un autre groupe, ça me dérange pas, mais abandonnez pas un groupe. Restez toujours groupés avec des chrétiens, c'est ça qui est le point. Que ce soit ici ou ailleurs, restez groupés avec des chrétiens. Un dernier point, il faut apprendre à résister, frères et sœurs. Il faut apprendre à combattre. Il faut apprendre à dire non quand c'est des tentations, des pièges, des choses. Ceux qui disent pas non, mais ils vont faire comme que je disais tantôt, ils sont séduits, il y a une belle fille qui s'en vient, mais là, ça peut être un beau gars aussi. C'est pas juste pour les gars qui sont attirés par les filles, il y a des filles attirées par des gars. Les séductions, ça semble être mon amoureux, puis là, ils se livrent à débauche, à l'impudicité ou à l'adultère, puis c'est le péché, puis ça l'amène quoi? Ça l'amène à la mort. Faut apprendre à résister aux tentations du diable, aux tentations du monde, parce que le monde vit pas comme Dieu le dit. Fait que faut pas s'étonner qu'il y ait des gays ou d'autres sortes de péchés, comme tout le monde sont à côté, il n'y a plus personne qui se marie. C'est un péché. Plus personne se marie, c'est un péché. Le monde est comme ça, puis ça peut être tentant pour les chrétiens de faire la même chose. C'est pas de Dieu. Il faut marcher comme Dieu nous le demande. Dans 1 Pierre 5, 7, c'est le dernier passage que je vous lis, de 7 à 9. Ça nous dit, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Il faut rester dans la foi. Mais si le diable vient nous tenter, résistez-lui avec une foi ferme. Faut apprendre à combattre, faut apprendre à dire non aux affaires qui sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces mêmes souffrances-là sont imposées à tout le monde dans le monde. À tous nos frères dans le monde vivent les mêmes combats, les mêmes luttes. Eux aussi ont persévéré dans les tentations, dans les pièges, dans les plaisirs de ce monde, les soucis du siècle, ou les convoitises, ou la richesse, peu importe les choses qui nous tentent, le sexe, la drogue, la boisson. La boisson, tu peux en prendre, c'est l'abus qui est défendu. En tout cas, ce qui est de la débauche, gardons-nous, faisons attention, parce que si l'iniquité s'augmente dans notre vie, la charité va se refroidir. L'amour de Dieu en nous va se refroidir. Il faut rester connecté, puis veiller, puis s'encourager les uns les autres. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais, ce que tu nous dis dans ta parole, tout ce que tu as fait pour qu'on puisse connaître qu'on a un chemin à persévérer, c'est le chemin de la foi, puis que tu nous as donné tous les outils, les moyens pour pouvoir être plus que vainqueurs. Merci Seigneur pour ta parole qui est là pour nous amener à garder le cap, à garder la foi, à persévérer jusqu'à la fin. Donne à chacune de tes brebis, Seigneur, de pouvoir s'affermer, de pouvoir se renforcer, de pouvoir se sanctifier, de pouvoir continuer le combat, puis de garder la foi jusqu'à la fin. Je te remercie de ce que tu veux faire. Dirige-nous dans notre combat. Donne-nous la force de passer à travers les épreuves, puis garde-nous jusqu'à la fin, comme tu l'as promis dans ta parole. On veut mettre notre confiance en toi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.